Les gens, c'est comme les mots. Il y a ceux que j'aime et ceux que j'aime pas. Quand j'aime pas, je supprime. Les mots, les gens, je supprime. Mais supprimer, justement, c'est un mot que j'aime pas.
Supprime-le.
Est-ce que tu peux être con? T'es même pas con, t'es bête. Tu sais rien, tu vas jamais au cinoche, tu te tiens au courant de rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents. Dans le fond, être tout idiot, t'es peut-être dans le vrai. Le savoir, quand on commence à mettre le nez dedans, c'est pire que la canne.
La ligne claire. Huitième numéro de ce magazine sonore qui, je l'espère, saura vous surprendre, vous séduire et vous captiver. Cette semaine, on mixe, mais on mixe du littéraire. Deux ouvrages se télescopent et s'entrecroisent. Lire est le propre de l'homme, dit l'un. Lire pour vivre, dit l'autre. Dans les deux cas, on célèbre la lecture, qui se pare de toutes les qualités, connaissance, enrichissement, évasion, bref, mieux que les 5 fruits et légumes par jour, quelques bonnes feuilles ci et là, et le monde s'en portera mieux à n'en pas douter. On couchera donc des témoignages d'écrivains et leur rapport à l'écrit sur des lits de musique soyeuse pour que tout ne soit que luxe, calme et volupté. Vous êtes prêts? Je suis prêt aussi. Et maintenant, commençons.
Je suis prête. Vous êtes prêts aussi?
Attention.
Et maintenant, commençons.
Il s'agissait en somme dans cette expérience de tract de montrer aux auteurs eux-mêmes, car c'était surtout aux auteurs que nous nous adressions, pas les lecteurs éventuels, mais à des complices. Il s'agissait de leur montrer par certaines reprises de leur propre texte, d'ailleurs, de leur montrer peut-être ce qu'ils avaient manqué dans leur roman, dans leur poème, dans leur récit, ce qu'ils avaient manqué dans le sens de plus de rayonnement, de plus d'irradiation. Nous nous considérions enfin non pas comme des gens marqués par la littérature, mais par un souci d'extra-littérature.
Tu viens d'incendier la bibliothèque? Oui, j'ai mis le feu là. Mais c'est un crime inouï. Crime commis, par toi, contre toi-même, infâme. Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme. C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler. Ce que ta rage impie et folle ose brûler, c'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage. Puis vint la liberté, toute cette lumière. C'est à toi, comprends donc. Et c'est toi qui l'éteins. Les buts rêvés par toi sont par le livre atteints. Le livre en ta pensée entre. Il défait en elle les liens que l'erreur à la vérité mêle. car toute conscience est un nœud gordien. Il est ton médecin, ton guide, ton gardien. Ta haine, il la guérit. Ta démence, il te l'ôte. Voilà ce que tu perds, hélas, et par ta faute. Le livre est ta richesse, à toi. C'est le savoir, le droit, la vérité, la vertu, le devoir, le progrès, la raison, dissipant tout délire. Et tu détruis cela, toi. Je ne sais pas lire. Au début, on ne lit pas. Au lever de la vie, à l'aurore des yeux, on avale la vie par la bouche, par les mains, mais on ne tache pas encore ses yeux avec de l'encre. Au principe de la vie, aux sources premières, au ruisselet de l'enfance, on ne lit pas. On n'a pas l'idée de lire, de claquer derrière soi la page d'un livre, la porte d'une phrase. Non, c'est pas simple au début. Plus fou peut-être. On est séparé de rien par rien. On est dans un continent sans vraie limite. Et ce continent, c'est vous, soi-même. Au début, il y a des terres immenses de jeu, les grandes prairies de l'invention, les fleuves des premiers pas, et partout alentour l'océan de la mer, les vagues battantes de la voix maternelle. Tout cela, c'est vous, sans rupture, sans déchirure. Un espace infini, aisément mesurable. Pas de livre là-dedans. Pas de place pour une lecture, pour le deuil émerveillé de lire. D'ailleurs, les enfants ne supportent pas de voir la mère en train de lire. Ils lui arrachent le livre des mains, réclament une présence entière. Et non pas cette présence incertaine corrompue par le songe. La lecture entre bien plus tard dans l'enfance.
Qu'as-tu fait de ta vie, puissance de roi? J'ai vu l'homme. Je n'ai pas vu l'homme comme la mouette vague au ventre, qui file rapide sur la mer indéfinie. J'ai vu l'homme à la torche faible, ployé et qui cherchait. Il avait le sérieux de la puce qui saute, mais son saut était rare et réglementé. Sa cathédrale avait la flèche molle. Il était préoccupé. Je n'ai pas entendu l'homme, les yeux humides de piété, dire au serpent qui le pique immortellement, puis-tu renaître homme et lire les Védas. Mais j'ai entendu l'homme comme un char lourd sur sa lancée, écrasant, mourant et mort. Et il ne se retournait pas. Son nez était relevé comme la proue des embarcations vikings. Mais il ne regardait pas le ciel, demeure des dieux. Il regardait le ciel suspect, d'où pouvaient sortir à tout instant des machines implacables, porteuses de bombes puissantes.
Claire.
J'attends Françoise. Je lui ai promis de ne rien lui cacher de mon nouveau métier.
Mon père, salut. Allez, viens, papa, je t'assure, tu fais pas le poids.
Ça va? Et toi?
Ça va.
Alors, raconte.
Ça va.
Lis à voix haute.
Pourquoi?
Pour voir comment ça fait.
Non, lis-toi.
Pourquoi?
Pour voir comment ça fait. Allez, lis. Grouille.
La jupe. Un type, un dimanche, propose à sa femme d'aller faire un tour à la rue Saint-Landry. Tout le monde savait que c'était la rue des putains. Jocelyne le savait comme les autres. Elle accepta pourtant. Si blasées qu'elles fussent, les filles paraissaient sidérées de voir cet homme qui défilait tranquillement devant elles avec sa femme, les inspectait des pieds à la tête en sa compagnie. Et elle, l'épouse, elle suivait, elle ne disait rien, elle regardait elle aussi. Et tout d'un coup, l'incroyable lieu. Passant devant une fille rousse, tout en noir, assez aguichante, il s'arrêta, engagea une brève conversation avec elle et sans autre forme de procès, monta. Il se contenta de trois mots pour prier Jocelyne de l'attendre, etc. Je saute un peu.
Non, lis.
Les filles, témoins de son humiliation, la regardaient sans la moindre ironie ni méchanceté, sans pitié ni compassion non plus. Jocelyne continua à marcher un moment au hasard, puis, prise une sorte de malaise, s'appuya à un mur près d'une porte. Elle n'avait même pas envie de pleurer, même pas envie de se cacher. Il devait y avoir dans son regard un désespoir serein qui invitait à la tendresse. Car un homme qui passait s'arrêta devant elle et mit longuement ses yeux dans les siens. Elle chercha à s'éloigner, Mais déjà, il avait saisi son bras, d'une manière assez autoritaire. Et il l'emmenait.
Continue.
Il lui fit franchir un seuil obscur et monter un escalier étroit. Elle se retrouva dans une chambre d'hôtel. Elle ne voyait ni les murs, ni les tristes papiers peints, ni les meubles. Elle s'était assise sur le lit et courbait la tête vers la carpette. Il prit une chaise, s'y assit, et lui dit qu'elle n'était pas comme les autres, mais à sa manière plus belle. Ses yeux s'agrandirent tellement qu'il eut envie de sourire. Comme il faisait plutôt chaud dans la chambre, il enleva sa canadienne et lui suggéra d'enlever son imperméable. Elle hésita, mais l'enleva pourtant et le plaça soigneusement sur le dossier d'une chaise. Je te résume la suite.
Oh non,
si, j'ai un rendez-vous.
Avec moi.
Bon. Elle tremblait. Il la prit dans ses bras, lui retira son pull. Il dégrafa sa jupe qui tomba à ses pieds. D'un mouvement des chevilles, elle se débarrassa de cette jupe. Elle regardait maintenant sur le sol de la chambre, comme un objet inconnu. Elle s'étendit sur le lit, couvrant ses yeux de son bras replié. Il la dévêtit de tout le reste, les bas, le slip. Bon, je te résume encore.
Non, je t'en prie.
Les caresses, les baisers. Et elle, la honte, la clouait là, sur le lit, et la rendait totalement offerte. L'homme la déshabilla. Quand il écarta ses cuisses et la pénétra, elle ressentit une douleur presque aussi vive qu'à sa nuit de noces. Mais suivit quelques instants après, tandis qu'il allait et venait dans elle, d'une illumination de toute sa chair telle qu'elle ne l'aurait jamais remerciée. Puis il commande de thé qu'apporte une serviette. Ensuite elle se rhabille, la rue des filles toujours là. Elle aperçoit son mari dans un café à table devant une vieille. Elle hésite, mais il y rejoint. Il lui demande de l'excuser. Il ne sait pas ce qu'il lui a pris. Elle ne dit rien. Il se traite de tous les noms. Il dit aussi, je suis revenu au bout de 10 minutes, tu sais. Depuis je t'ai oublié.
Je lis parce que je suis souvent amené à me trouver seul et que lire est l'un des plus grands plaisirs que la solitude puisse m'offrir. Parce que lire me console de ma solitude. Parce que lire me met à distance de moi-même et du monde. Parce que lire me ramène à moi-même et au monde. Je lis parce que je ne connais pas assez de gens et parce que l'amitié est vulnérable et susceptible de disparaître pour cause d'espace, de temps, d'accord imparfait et de peine de la vie. Je lis conformément aux instructions de Samuel Johnson pour prendre la mesure des choses. Je lis pour découvrir ce que ces choses peuvent avoir en commun avec moi et pour éprouver leur proximité. Je lis pour connaître la différence entre les hommes et les femmes, et surtout pour savoir ce qu'est un homme. Je lis pour me fortifier et apprendre ce qui m'intéresse d'une façon authentique. Je lis pour mon plaisir, égoïstement, puisque je sais que je ne pourrais améliorer la vie de quiconque en lisant mieux et plus profondément. Je lis professionnellement aussi, pour m'informer. Je lis pour oublier mon corps. Je lis parce que je n'aime que les lecteurs et que je veux figurer parmi eux. Je lis pour me cultiver, pour me tenir au courant de ce qui s'écrit et pouvoir recommander des livres aux autres, notamment à mes filles et à mes petits-enfants. Je lis à cause de Shakespeare, parce que je suis toujours en quête d'un esprit plus original que le mien. Je lis pour déchiffrer des sentiments humains dans la langue des humains. Je lis pour essayer de me connaître mieux. Je lis pour savoir davantage. Je lis pour tomber amoureux d'un auteur, d'une phrase, d'une idée. Je lis parce que contrairement à ce qui se passe dans la vie, si on ne comprend pas une phrase ou un livre, on peut recommencer. Je lis parce que selon Kafka, on lit afin de pouvoir poser des questions. Je lis parce qu'un ami de Kafka a dit « Je ne crois pas que je pourrais exister sans livres. Pour moi, ils sont le monde entier. » La ligne claire.
L'importance. de la correspondance dans les affaires oblige à prendre quelques dispositions spéciales qui permettent de se reporter facilement aux lettres auxquelles on répond. Elle oblige naturellement aussi à conserver trace de toute cette correspondance. Cette dernière obligation est inscrite à l'article 8 du Code de commerce. Tout commerçant est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit et de copier sur un registre celles qui l'ont envoyé.
Un livre est comme réécrit à chaque époque à laquelle on le lit et à chaque fois qu'on le lit. La relecture serait alors une lecture, mais une lecture inconsciemment chargée de tout ce qui, entre une lecture et l'autre, est passé sur ce livre et à travers ce livre, dans l'histoire humaine et en nous. Voilà pourquoi la joie de la relecture est plus intense, plus lumineuse que celle de la lecture. Et l'on pourrait en venir à formuler un paradoxe. En relisant toute une vie, le même livre, on obtiendrait un plus grand bonheur qu'en lisant toute une bibliothèque. Encore faut-il naturellement trouver et choisir un livre qui vaille la peine que toute une vie tourne autour de lui, comme la terre autour du soleil. Il faut reconnaître qu'il existe des livres qui possèdent en eux, et plus que les autres, une telle qualité, une telle potentialité. Des livres capables en soi de devenir différents, de s'enrichir et d'enrichir la vie. La vie de génération d'hommes, la vie de collectivité humaine, la vie des individus qui le lisent, qui le relisent. Plus que jamais, je considérais ma bibliothèque comme un havre de fraîcheur, une forêt frisquette en constante expansion, où les hommes, échappant à l'agitation fébrile d'une journée de travail, venaient passer une heure à détendre leurs membres et baigner leur esprit dans la lumière verte gazon et la brise légère des pages tournées. Puis, reconcentrés, les idées refixées à leurs armatures, la chair plus souple, ils pouvaient se replonger dans la fournaise grondante de la réalité. Affronter midi, sa foule, l'improbable vieillissement, la mort inéductable. J'en avais vu des milliers débouler affamés et repartir rassasiés. Des réalistes s'abandonner aux rêves et des rêveurs se réveiller dans ce sanctuaire de marbre où chaque livre avait le silence pour signer.
Donné par le carbone. la correspondance commerciale ne diffère de la correspondance ordinaire que par la disposition du texte. Il n'y a pas de style commercial, car rien ne mérite le nom de style donné au jargon qu'on emploie parfois dans les affaires.
J'ai été atteint de tuberculose osseuse et je suis parti en sanatorium dans les Pyrénées à 1800 mètres d'altitude. Je suis resté alité, couché dans un lit, coincé dans un plâtre, des pieds à la poitrine, durant 4 ans, avec pour seul paysage une montagne immobile appelée le Cambre d'Az, ce qui signifie en catalan le dos d'âne, et pour seul horizon, un ciel immense, si lumineux qu'il égarait tous les regards. C'est là, dans ce lieu magique, que j'ai découvert la lecture. Mes parents étaient d'origine extrêmement modeste et ni l'un ni l'autre n'avaient fait d'études. Quelques rudiments d'écriture, de calcul, mais beaucoup de bon sens, tel était leur bagage. En sanatorium, où je ne me déplaçais que sur un lit roulant, j'ai découvert cette fabuleuse liberté que procure la lecture autour des voyages imaginaires, la possibilité de s'identifier aux héros, celle de créer des mondes, de ciseler des situations, d'inventer la vie. Quelle période merveilleuse ce fut pour moi! Je surprends souvent mes proches quand j'évoque le bonheur de cette séquence de vie. Où, immobile, enfermé dans un plâtre, je jouissais pourtant d'une liberté fabuleuse, celle de rêver, celle de me projeter dans l'espace de mon imaginaire.
Je n'ai pas beaucoup d'affection pour les lecteurs en général, les grands lecteurs surtout. Je n'aime pas leur manière péremptoire, leur certitude d'être au-dessus du commun, ces phrases satisfaites qu'ils ont pour parler d'eux-mêmes et de leurs inoubliables lectures, quand ils étaient tout petits déjà, et qu'ils lisaient Chateaubriand et Flaubert, et tout ce qu'ils ont lu depuis, le crayon à la main, et toutes ces études formidables qu'ils ont faites par la suite, grâce auxquelles ils sont devenus des personnes si intéressantes et avisées et puissantes. Oh mon Dieu! Je n'aime pas les lecteurs qui se situent du côté du manche, ceux qui font la police dans les bibliothèques, les intellectuels de gouvernement, les dispensateurs nationaux du sens, les généraux tortionnaires. Je ne peux pas croire qu'ils aient été des lecteurs dans leur enfance. Ils ont dû l'oublier, et encore cette enfance, ils ne l'ont pas habité très longtemps. Mais je me sens proche de ceux qui se sont perdus dans la lecture comme dans une forêt hantée. Ils ont emprunté des chemins qui ne menaient nulle part. Ils ont ouvert leur sentier tout seuls, avec un opinel, au risque de mauvaises rencontres, au risque de se faire peur ou de se faire mal, au risque même de tourner en rond. Ils ont découvert des ruisseaux et des rivières, des précipices, des clairières, des prairies et des trouées sur leur ciel. Ceux-là, quand ils parlent de leur lecture, ont une manière singulière de le faire. Les mots qu'ils utilisent sont les leurs. Et ils se fichent bien que tout le monde lise qui ils lisent, que tout le monde aime qui ils aiment. Ils veulent bien être tout seuls. Et ils ont quand même quelque chose d'un peu jaloux. Partager ses amours avec n'importe qui, c'est à vous dégoûter d'aimer. J'aime la collégienne qui lit tout ce qui lui tombe sous la main et qui fait le désespoir du conseil de classe. Elle ne s'intéresse à rien, elle ne fournit aucun effort. J'aime le grand gamin qui vient de lire son premier livre et qui ne revient pas de l'avoir lu en entier et d'y trouver un tel plaisir. « Madame, j'ai fini. » Et tout de suite, je l'ai recommencé. J'aime le dandysme un peu là, de l'une et de la joie éclatante de l'autre. J'aime la lycéenne évaporée pour qui je pille le rayon poche de la librairie en vacances et qui m'envoie des SMS à chaque livre qu'elle termine. Parfois, deux par jour, c'est insensé. J'aime le tout petit enfant qui récite son album préféré au fur et à mesure que je tourne les pages. Il a retenu jusqu'aux virgules. Il me semble que rien ne prépare mieux à tenir tête à la meute, à la peur, à l'autorité, à l'existence même que l'expérience solitaire de la liberté. Et franchement, quel meilleur champ d'exercice, plus vaste, plus divers, plus sauvage, plus scandaleusement personnel que la lecture.
Oui, je lis beaucoup.
Vous lisez beaucoup d'histoire?
De l'histoire, littérature.
Vous avez une prédilection pour la lecture de l'histoire?
Non, parce que je lis autant de littérature romanesque ou d'essai. Non, pas spécialement. Il faut que ça m'accroche, il faut qu'une période m'accroche, un personnage, un récit. Je lis tout l'histoire.
J'aurais voulu que vous me parliez de la lecture. La lecture de l'histoire, justement.
On pourrait...
C'est une lecture à laquelle... Laquelle j'aborde très difficilement.
Celle de l'histoire.
Oui.
J'avais toujours l'impression que c'est biseauté. C'est une reconstitution romanesque d'événements qu'on ne peut pas insérer.
Voilà.
Un peu de ça. Je déteste l'histoire romancière, moi, d'ailleurs. Vous me direz, j'ai toujours romancé. Non, il y a quand même une science historique.
Il y a quand même une science.
C'est une science.
Début, c'est pas romancé.
Oui.
Vous êtes pour les nouveaux, Le Goff.
Je suis.
Le Goff pour les nouveaux ou historiens?
Bon, je suis pour tous, moi j'aime bien les historiens classiques, j'aime bien les livres, bon, j'aime ce qui m'intéresse.
Mais l'un que je mets au-dessus de tout, c'est le roi mourant.
Oui, c'est un grand.
Voilà, ça va complètement.
Ah, oui.
Quand
c'est un...
la là, vie est jolie, jolie.
Non, c'est pas grand chose.
Jolie. Quand il fait triste et qu'il fait gris. Je lis. Quand je m'ennuie seul dans mon lit, je lis. Quand même les rêves me fuient, je lis. Cherche un coin d'oubli, je lis. Quand j'ai besoin d'un alibi, je lis. Quand
comme la lalie. Je lis quand je perds le goût de la vie. Je lis.
Oui, je lis. J'ai ce ridicule. J'aime les beaux poèmes, les vers bouleversants, et tout l'au-delà de ces vers. Je suis comme pas insensible à ces pauvres mots merveilleux laissés dans notre nuit par quelques hommes que je n'ai pas connus. J'aime la poésie, je suis en mesure de le faire. Pouvez-vous en dire autant ? Vous restez confondu en ces lignes inégales, devant ces pages noires, devant ces échos muets pour vous. Vous croyez qu'on se moque. Vous jetez les yeux sur l'écriture, vous froncez les sourcils, vous vous agitez avec impatience, vous cherchez à prendre une attitude ironique. Vous essayez de dire « Allons donc !» La gravité de mon visage arrête comme un mur le petit attelage de vos plaisanteries. Vous commencez à vous fâcher. Alors je change les livres étalés sous vos yeux, car je vous sais à jamais fermé aux poètes. J'en mets d'autres. Et je ne me permets pas qu'on rie, enfin. Voici vos venargues. Je veux que vous lisiez d'un bout à l'autre à haute voix. Voici l'ouvrage sans égal que Benjamin Constant consacra à l'étude des religions. Voici la parole sévère, Alphonse Rabble. Voici la prose, l'ève future et la bataille de Morsan. Voici Francis Poictevin, ce fantomas. Voici le ton de voix, Jacques Vacher. Voici la transition, les pas perdus. Et me voici moi-même avec les livres de mon choix.
Girl, this very special girl, and she worked find Brett, helps me find Chandler, helps me find James Joyce. She always makes the right choice. She's no queen, she's no angel, just a peasant from the village. She's my God, she's my G-O-D. She's my God, yeah, yeah, she's my G-O-O-D, yeah. God now, oh she's my God now, yeah. Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, 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 oh yeah, ah, Karen.
Seule une activité mentale soutenue et régulière peut développer nos facultés cognitives et surtout les préserver en cas de dégénérescence. La lecture est l'une des activités les plus bénéfiques pour la stimulation cérébrale et le développement de l'esprit. Elle est vertueuse et accessible à tous. La lecture de bons livres développe le niveau de l'intelligence et rend plus compatissant à l'égard des autres. Plus nous lisons des livres de bonne qualité, plus nous améliorons notre vocabulaire et nourrissons notre intelligence qui, à son tour, nous permet de prendre de bonnes décisions. Mark Twain a dit « Ne laissez jamais votre niveau de scolarité nuire à votre éducation. Peu importe votre niveau de scolarité, vous pouvez parfaire votre niveau d'éducation à travers la lecture enrichissante et édifiante. » La lecture nous informe, nous fait rêver, nous bouleverse, nous enrichit. Normal qu'elle améliore également notre niveau de bonheur. Développez votre enthousiasme à l'égard de la lecture, peu importe l'endroit où vous êtes. Trouvez l'opportunité de stimuler et d'enrichir votre esprit à travers la lecture.
Pas une de nos émotions n'est franche. Joie, douleur, amour, vengeance, nos sanglots, nos rires, les passions, les crimes. Tout est copié, tout. Le livre est là.
Tuesday, David, with Chanel number 5. Take a look. Here's Cecil Beaton's scrapbook. Beauty created with a palette light. Take a look. Here's Cecil Beaton's scrapbook. They may grow old, but the image will stay the same.
L'encre surnage sur cette mer de sang et de larmes. Cela est souvent gai, quelquefois triste. Mais à travers les débris, les fleurs, les vies ratées, les morts voulues, le livre, toujours le livre. Cherchez la femme, disait un juge. C'est le volume que je cherche, moi. Le chapitre, la page, le mot.
They may look strange, but the breeding shows. Take a look. Here's a Cecil Beaton scrapbook.
embouteillages, il se rend comme en fer d'un matin brumeux à l'instant d'éternité.
À l'avant-garde du modernisme, pas ça se voit encore aujourd'hui, il n'y a pas de plus grands acheteurs de pop-art, etc. qu'à Bruxelles. Et là aussi, des concerts de musique moderne. Par exemple,
combien j'en sais d'un tel passage lu un matin à dominer des faits refaits perdus ou sauvés l'existence.
On créait Schoenberg, on a créé le livre en 1925, c'est même là que j'ai rencontré Nogé, qui a créé un scandale dans la
les
salle,
morts,
que je n'ai pas le temps de raconter,
voulus,
j'ai trop de choses à raconter.
Les vies ratées,
et alors,
les débris, les fleurs,
il y avait donc
le
un
livre,
engouement
toujours, le
toujours
livre,
pour le modernisme, tout ce qu'il y avait de plus moderne. Or, il se fait que nous étions arrivés à cette attitude que ce qu'il fallait surtout attaquer,
oui,
immédiatement
joli,
attaquer, c'était justement
ridicule,
l'art moderne. Alors, nous avons combiné une séance qui se passait dans la salle la plus misérable de tout Bruxelles, une ancienne salle où on donnait des balles, des concerts, de petites musiquettes. Ça s'appelait la salle de la rue Mercellus. Et là, nous avons fait un spectacle et auquel était invité le tout Bruxelles.
J'avais 4 ans lorsque j'ai découvert que je pouvais lire.
Je n'ai pas une minute à perdre.
J'écris.
Il est 5 heures, je précède.
La nuit.
On veut trop noir sur le papier.
Va vite.
Pendant que ma lucidité
me quitte.
J'ai eu pris ce que j'ai vu. Diagramme des détresses. Le collier, la laisse. Je ne supporte plus. Vinyle de la rue. Fantôme de la vitesse. Tous ceux que je blesse. J'ai atteint la date limite pour le suicide idéal.
La date que j'avais inscrite
à 15 ans dans mon journal. Je croyais la vie passe vite. Je croyais
je ne crois plus en rien.
Tu es prêt à mourir demain? Es-tu prêt à partir si vite? Les yeux baissés, tu ne dis rien, j'ai atteint la date limite. Je ne suis plus de votre race, je suis du clan mongol. Je n'ai jamais suivi vos traces, vos attitudes molles. J'ai forgé mon corps pour la casse, j'ai cassé ma voix pour le cri. Un autre est là qui prend ma place, un autre dicté, moi j'écris. L'autre, je suis l'autre. Affronte la nuit, celui du sang et de la honte,
folie
que j'ai vue à l'angle des stress, dans la jungle épaisse, des mots inconnus, je vois où j'ai vu, hôpital
silence. Tout ce que je pense, je ne m'en souviens plus. J'ai dépassé la limite du scénar original. Rien à voir avec le mythe étalé dans le journal. Tu croyais, la vie passe vite. Tu croyais, tu ne crois plus en rien. Je suis prêt à mourir demain. Je suis prêt à partir très vite. Regarde acier, je ne dis rien. J'ai dépassé la limite. Je ne suis plus de votre race. Je suis du clan mongol. Je n'ai jamais suivi vos traces, vos attitudes molles. J'ai forgé mon corps pour la casse. J'ai cassé ma voix pour le cri. Un autre est là qui prend ma place. Un autre dit t'es moi chez lui. L'autre. Je suis l'autre. L'autre.
Sur mon lit, dans une attitude d'un naturel qu'on aurait pu inventer, je lui trouvais l'air d'une longue tige en fleurs qu'on aurait disposée là. Et c'était ainsi, en effet. Le pouvoir de rêver que je n'avais qu'en son absence, je le retrouvais à ces instants auprès d'elle, comme si, en dormant, elle était devenue une plante. Par là, son sommeil réalisait, dans une certaine mesure, la possibilité de l'amour. Seule, je pouvais penser à elle. Mais elle me manquait, je ne la possédais pas. Présente, je lui parlais, mais était trop absent de moi-même pour pouvoir penser. Quand elle dormait, je n'avais plus à parler. Je savais que je n'étais plus regardé par elle. Je n'avais plus besoin de vivre à la surface de moi-même. En fermant les yeux, en perdant la conscience, Albertine avait dépouillé, l'un après l'autre, ces différents caractères d'humanité qui m'avaient déçu depuis le jour où j'avais fait sa connaissance. Elle n'était plus animée que de la vie inconsciente des végétaux, des arbres, vie plus différente de la mienne, plus étrange, et qui cependant m'appartenait davantage. Son moi ne s'échappait pas à tout moment, comme quand nous causions, par les issues de la pensée inavouée et du regard. Elle avait rappelé à soi tout ce qui d'elle était au dehors. Elle s'était réfugiée, enclose, résumée, dans son corps. En le tenant sous mon regard, dans mes mains, j'avais cette impression de la posséder tout entière, que je n'avais pas quand elle était réveillée. Sa vie m'était soumise, exhalait vers moi son léger souffle. J'écoutais cette murmurante émanation mystérieuse, douce comme un zéphyr marin, féerique comme un clair de lune qu'était son sommeil. Tant qu'il persistait, je pouvais rêver sur elle, et pourtant la regarder et, quand ce sommeil devenait plus profond, la toucher, l'embrasser. Ce que j'éprouvais alors, c'était un amour aussi pur, aussi immatériel, aussi mystérieux que si j'avais été devant ces créatures inanimées que sont les beautés de la nature. Et en effet, dès qu'elle dormait un peu profondément, elle cessait d'être seulement la plante qu'elle avait été. Son sommeil, au bord duquel je rêvais avec une fraîche volupté dont je ne me fusse jamais lassée et que j'eusse pu goûter indéfiniment, c'était pour moi tout un paysage. Son sommeil mettait à mes côtés quelque chose d'aussi calme, d'aussi sensuellement délicieux que ces nuits de pleine lune dans la baie de Balbec, devenue douce comme un lac, où les branches bougent à peine, où, étendues sur le sable, on écouterait sans fin se briser le reflet. En entrant dans la chambre, j'étais restée debout sur le seuil, n'osant pas faire de bruit, et je n'en entendais pas d'autre que celui de son haleine venant expirer sur ses lèvres, à intervalles intermittents et réguliers, comme un reflux, mais plus assoupi et plus doux. Et au moment où mon oreille recueillait ce bruit divin, il me semblait que c'était condensé en lui, toute la personne, toute la vie de la charmante captive, toute la vie étendue là sous mes yeux. Thank you.
commencer par dire qu'un jour, j'ai ouvert un livre. Mais je préférerais dire que je me suis ouvert à un livre.
Allô, allô, c'est Tintin qui vous parle. Je viens de reprendre connaissance.
Graphite 94.9. Vous pouvez reprendre connaissance. La ligne claire se termine. Merci à Gisèle, Christian et Michoum pour la belle inspiration. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine sonore. Même lieu, même heure. Et d'ici là, restez à l'écoute. Il se passe bien des choses de ce côté de la radio.